Salut à tous, c'est Augustin Lefebvre, journaliste à Radio Classique. Vous écoutez Retour vers le classique, le podcast qui réconcilie musique savante et pop culture. Dans cet épisode, du classique au féminin. Ça, c'est une étude pour piano composée par Hélène de Mongeroux. Et là, vous vous dites, qui ça ? Il est fort probable que vous n'ayez jamais entendu parler de cette compositrice. Et d'ailleurs, il est fort probable que vous n'ayez jamais entendu de compositrice du tout. Parce que les femmes dans la musique classique sont très peu visibles et surtout très peu audibles. D'après une étude publiée en 2016, il n'y avait qu'1% de femmes programmées dans les concerts classiques. Le titre de cette étude, Où sont les femmes ? C'est la question qui va nous intéresser dans cet épisode et le prochain. Alors on ne va pas aborder la pop culture à proprement parler, mais les thèmes féministes sont de plus en plus présents dans cette pop culture depuis quelques années, avec la mise en avant d'héroïnes et de figures féminines fortes, mais aussi de créatrices, et puis il y a la libération de la parole des femmes. J'ai voulu savoir si c'était la même chose dans le classique, c'est un sujet très important qui me tient à cœur. Dans la prochaine émission, on va parler des chefs d'orchestre, mais dans cet épisode, on va se demander à travers deux entretiens pourquoi les femmes qui écrivent de la musique sont si peu connues et comment elles ont été occultées. Pour commencer, je suis allé interroger Pauline Lambert, elle est musicologue. Tous les après-midi de la semaine, elle présente Tempo sur Radio Classique. Ensemble, on va revenir sur la place des femmes dans l'histoire de la musique. Première question, qui était la première à avoir composé une partition ?
Question difficile, Augustin. Ça pose en fait toute la question des sources et de la notion même d'auteur qui n'existe pas avant l'époque moderne. La première femme dont on a gardé la trace, c'est Sappho, une musicienne et poétesse qui vivait en Grèce, 600 ans avant notre ère, et elle vivait dans une communauté de femmes, ce qui est assez emblématique. La Grèce était alors très morcelée, et elle vivait entourée de femmes, elle chantait, faisait de la musique et écrivait des textes. C'est la toute première femme musicienne qu'on connaisse.
Sappho, impossible d'entendre ce qu'elle a écrit. La première femme dont les compositions nous sont parvenues, c'est Cassienne de Constantinople au 9e siècle. Voilà à quoi ça ressemble. Le Moyen-Âge qui est aussi marqué par la figure d'Hildegarde von Bingen, une religieuse du XIIe siècle. Et la musique, c'est un de ses nombreux talents, Pauline.
Hildegarde von Bingen, c'est une figure importante parce qu'elle était compositrice, mais elle était aussi plus généralement humaniste. Elle connaissait parfaitement les arts, les lettres, la botanique. C'était vraiment une femme savante au sens complet du terme. Et la musique faisait partie de son apprentissage et de sa vie, au même titre que tous les autres arts.
On va faire une avance rapide. Fin 17e, début 18e, on peut écouter Élisabeth Jacquet de la guerre à la cour d'abord de Louis XIV, puis de Louis XV. On arrive à la Révolution française, la Révolution et son idéal d'égalité. Et on revient là à Hélène de Mongeroux, que j'évoquais en introduction. Elle est considérée par son biographe comme un des liens importants entre les époques classiques et romantiques.
C'est vrai, Hélène de Mongeroux, en fait, elle fait cette transition entre le 18e et le 19e siècle, à la fois par sa vie, elle était marquise, elle a survécu à la Révolution française en improvisant sur la Marseillaise, c'est ce qu'on raconte, et en même temps par son œuvre, puisqu'elle a livré des pages, notamment pour le piano, qui montrent une sensibilité toute particulière, qui annonce le romantisme en musique, et puis c'est aussi un lien important par son enseignement. Elle était professeure au Conservatoire de Paris, la toute première femme professeure. Elle a livré des leçons de piano, une immense somme écrite. Et elle a formé de très très nombreux pianistes. Et elle a refait découvrir Bach, par exemple, un compositeur qui était complètement oublié à l'époque. Donc c'est vraiment un chaînon essentiel dans l'histoire de la musique.
L'époque romantique, justement, où l'on retrouve en Allemagne deux femmes compositrices qui doivent faire face aux hommes de leur famille et aux contraintes de la société patriarcale. D'abord Fanny Mendelssohn, la grande sœur de Félix Mendelssohn, lui pourra devenir compositeur, elle non. Et puis la seconde, c'est Clara Schumann, qui est assez incontournable quand on parle des femmes qui font de la musique. Aujourd'hui, elle a atteint une certaine forme de reconnaissance, on a commémoré l'année dernière les 200 ans de sa naissance. Mais Pauline, elle est longtemps restée simplement femme de...
Oui, c'est vrai, la pauvre Clara, elle était longtemps qualifiée de femme de Robert Schumann, de muse et d'amante de Johannes Brahms, en tout cas son amie de très très longue date. Elle était aussi mère de famille, elle s'est beaucoup consacrée à sa vie familiale. Entre Brahms et Schumann, elle était un petit peu coincée. Et c'est vrai que sa musique refait surface. Aujourd'hui, on l'entend de plus en plus, notamment dans des enregistrements. Et c'est une figure marquante, là aussi, parce qu'elle était, comme Hélène de Mongeroux tout à l'heure, à la fois pianiste et compositrice. Donc elle maîtrisait à merveille son instrument. Elle a écrit des concertos pour piano absolument superbes, des pages pour le piano qui font date, et pas seulement parce qu'elle porte le nom de son mari.
On va écouter un extrait de Clara Schumann, c'est un nocturne. Là, on arrive à une exception qui confirme la règle, si je puis dire, puisque après ces deux femmes qui ont été empêchées de faire de la musique à cause des hommes de leur famille, il y a quand même le cas de Louise Farinck. Elle, son mari, s'est mise en retrait, c'est ça ?
Exactement. Là, on a vraiment le cas inverse. Habituellement, les femmes sont dominées, contraintes, réduites au silence par leurs époux, leurs parents, leur famille en général. Là, Louise Farinck, c'est tout l'inverse. C'était une excellente pianiste et compositrice. Elle a été professeure, elle aussi, au Conservatoire de Paris. Et son époux, Aristide, a décidé de se consacrer à la carrière de sa femme, voyant le succès qu'elle avait et l'importance de ses œuvres musicales. Il est devenu en quelque sorte son impresario, son agent musical. C'est lui qui a promu ses œuvres et qui a aussi décidé de créer une maison d'édition pour pouvoir éditer les œuvres de son épouse. Donc là, c'est vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, l'exception qui confirme la règle. Louise Farinck, soutenue, encouragée par son époux qui s'est dédié à la carrière de sa femme.
Ce qui est fascinant avec Louise Farinck, c'est que c'est grâce à elle, indirectement, que le terme compositrice apparaît. Puisque ce terme de compositrice au XIXe siècle, il existait pour désigner les femmes qui travaillaient dans l'imprimerie. On parlait de femmes compositeurs pour les femmes qui écrivaient des partitions. Et un jour, donc il y a une biographie de Louise Farinck qui est écrite, et il y a un musicologue qui s'appelle Adrien de Lafage qui répond pourquoi est-ce qu'on n'emploierait pas le terme de compositrice. Je vais vous lire un extrait d'une lettre qu'il envoie à l'Académie française en 1847. Vous permettez aux femmes, messieurs les académiciens, d'être bonnes lectrices. Vous trouvez également bon qu'elles soient habiles accompagnatrices. Pourquoi donc ne leur laissez-vous pas la liberté d'être compositrices? Et de quel droit vous étonneriez-vous qu'elles fussent autrices excellentes, de même que plusieurs sont actrices sublimes? Ce qui d'ailleurs fait écho à l'actualité d'aujourd'hui, puisque beaucoup de féministes se battent pour imposer le terme d'autrice pour parler des femmes auteurs. Alors celui de compositrice, il finira par être accepté dans le dictionnaire de l'Académie française dans les années 1930, dans la 8e édition du dictionnaire. Et ce début du 20e siècle, est-ce qu'on peut dire qu'il est marqué par une forme de reconnaissance institutionnelle des femmes qui font de la musique? Il y a deux exemples. Mel Bonis, qui devient la première femme à occuper une place importante dans la Société nationale de musique en 1910. Et puis en 1913, trois ans après, Lili Boulanger devient la première compositrice à obtenir le très prestigieux prix de Rome.
C'est vrai, Augustin, le prix de Rome, c'est vraiment le Graal pour les compositeurs. C'est la marque de la reconnaissance institutionnelle par excellence. Ça permet aux compositeurs de bénéficier d'une résidence, de partir à Rome, à la Villa Médicis, et de bénéficier ensuite de commandes de la part des grandes institutions, comme l'Opéra de Paris. C'est vraiment la carte de visite essentielle pour les compositeurs. Lili Boulanger, c'est une véritable révolution quand elle obtient le prix de Rome. Malheureusement, c'est une jeune femme qui va mourir très très jeune, malade. Et c'est sa sœur Nadia qui fait perdurer la mémoire de sa sœur Lily, qui écrit des pages extrêmement sensibles, très touchantes, assez tourmentées aussi parfois. C'est vraiment une compositrice, moi, que j'adore.
On va écouter le Pie Jesu qu'elle a dicté sur son lit de mort à Nadia, elle avait 24 ans. Est-ce que aujourd'hui des compositrices sont plus visibles dans l'actualité. Je pense notamment peut-être à Camille Pépin qui a eu beaucoup d'attention médiatique, enfin beaucoup, c'est relatif, mais l'année dernière avec la sortie de son album.
C'est vrai, Camille Pépin, elle fait partie de ces toutes jeunes compositrices sorties du Conservatoire de Paris, toujours l'institution qui est encore aujourd'hui un Graal. Il y en a peu, mais de manière générale, parce qu'on connaît aussi peu les compositeurs contemporains. Donc les femmes compositrices, on les connaît encore moins. Finalement, elles, c'est double obstacle pour leur reconnaissance.
Alors, venons-en maintenant aux raisons en fait, qui font qu'on connaît si peu ces femmes. Elles ont été occultées dans l'histoire de la musique, on peut le dire, parce que à leur époque, elles étaient connues et elles jouaient devant un public qui appréciait leurs œuvres, même si c'était parfois seulement un public privé.
Effectivement, elle jouait beaucoup dans des cadres privés, dans le cadre de salons, bourgeois, dans l'intimité. Et c'est d'ailleurs une des raisons du silence des femmes compositrices aujourd'hui. C'est parce qu'elles ont souvent été réduites à ce cadre bourgeois ou aristocrate du salon, le lieu de l'intimité. Et donc elles ont composé souvent une musique de chambre, des mélodies, des pièces pour piano, des pièces de divertissement, qui sont parfois peu considérées aujourd'hui parce qu'on aime moins ce répertoire que la grande musique symphonique qui, elle, est jouée dans les grandes salles de concert. Donc c'est vrai que ce cadre même dans lequel leurs œuvres étaient jouées a beaucoup joué dans la méconnaissance qu'on a aujourd'hui de leurs compositions.
Pauline, je suis obligée de poser la question, mais je connais la réponse. L'une des raisons pour lesquelles la musique des femmes a été mise de côté, c'est qu'elle serait tout simplement moins bonne que celle des hommes. Alors est-ce qu'à l'oreille, on peut faire la différence ?
Non, franchement, je ne crois pas qu'il soit possible de distinguer une œuvre écrite par un homme ou par une femme. Et justement, même pour lutter contre ce stéréotype attaché aux œuvres écrites par des femmes, certaines ont décidé de changer leur nom, ou de masquer leur prénom en tout cas. Mel Bonis, par exemple, une femme du début du XXe, a adopté ce prénom Mel, assez neutre, pour déguiser son véritable prénom Mélanie. Liszt, lui, disait par exemple à une autre femme compositrice, Marie-Jaël, un nom d'homme sur votre partition et elle serait jouée sur tous les pianos. Ça montre bien à quel point le prénom prédétermine l'écoute, en fait, conditionne notre écoute, mais que ça n'entre pas du tout dans la qualification et dans l'appréciation qu'on peut avoir d'une œuvre écrite par une femme. Un dernier exemple, Cécile Chaminade, une autre femme compositrice française, était appelée par Bizet « Mon petit Mozart ». C'est bien dire à quel point toutes ces femmes ont écrit de très très belles œuvres. Tout n'est pas splendide, mais ce n'est pas le cas non plus des œuvres écrites par des hommes. Et donc ça vaut le coup aujourd'hui de se pencher sur leurs partitions, de les redécouvrir. Il y a encore un immense travail à effectuer.
Est-ce qu'une autre des raisons de cette invisibilisation, c'est le fait qu'à l'époque romantique, en fait, la figure du génie est plutôt vue comme masculine et finalement, les femmes n'auraient pas le droit au génie ?
Effectivement, c'est vrai que dans cette figure symbolique que tu évoques, la femme n'est que la muse, l'inspiratrice, alors que l'homme, lui, est le créateur. Et c'est vrai qu'on a longtemps dénié aux femmes la possibilité de créer. Une des explications souvent avancées, c'est que les femmes maîtrisent déjà la procréation, tout simplement. Elles ont ce privilège exorbitant de pouvoir donner naissance à un enfant. Et donc, puisqu'elles œuvrent déjà dans la sphère familiale de la procréation, la création, elle, le geste artistique, leur a été souvent refusé. En même temps, cette figure romantique du génie inspirée par les dieux occulte complètement toute la phase d'apprentissage qui est essentielle pour tous les compositeurs. Très peu sont de véritables génies prodigieux comme l'était Mozart, par exemple. Et c'est là un point important. Les femmes, elles, ne bénéficiaient pas toujours de la même formation que celle des hommes. Et donc, elles n'ont pas forcément pu exprimer leur maîtrise musicale comme les hommes. Les maîtrises, par exemple, attachées aux cathédrales, étaient interdites aux femmes. Le Conservatoire de Paris aussi était interdit aux femmes. Il a fallu qu'une première violoniste se batte, et que son père se batte d'ailleurs, pour qu'elle puisse entrer au conservatoire au milieu du XIXe siècle, plus de 50 ans après sa création. Donc cette question du génie musical, elle est en fait très ambiguë parce qu'elle met complètement de côté la question de la formation qui en fait est déterminante dans la possibilité ensuite de maîtriser le langage musical et d'accéder surtout au lieu de reconnaissance, aux salles de concert et à tout le réseau musical.
Pour terminer cet entretien, est-ce que toi tu passes de la musique écrite par des femmes dans ton émission sur Radio Classique ?
Alors oui. J'en passe, peut-être pas assez d'ailleurs, il faudrait que j'en passe plus, mais encore aujourd'hui on écoutait Cécile Chaminade. Mais c'est vrai qu'on manque parfois de bonnes références discographiques, on manque de travaux de recherche aussi, il y a beaucoup d'universitaires qui travaillent sur le sujet, mais ça n'est que le début. c'est encore un champ à explorer et tous les maillons de la chaîne, tous les acteurs de la vie musicale doivent s'en emparer et doivent, à leur échelle aussi, promouvoir cette musique de femmes, des artistes qui méritent pleinement de rentrer, elles aussi, dans l'histoire de la musique.
Merci beaucoup, Pauline.
Merci, Augustin.
On aurait pu continuer encore à parler des heures du sujet. On a dû laisser de côté plein de compositrices. On va se quitter avec Cécile Chaminade, que tu évoquais tout à l'heure, compositrice française qui a vécu de 1857 à 1944 et qui a notamment écrit ce concertino pour flûte. Pauline parle de chants à explorer et c'est vrai qu'il faut se donner la peine de chercher pour entendre des femmes compositrices. Mais depuis quelques années, plusieurs initiatives se sont développées pour les faire connaître. C'est notamment le cas de Composer, ça s'écrit C-H-O-M-P-O-S-H-E-R. C'est un jeu de mots sur le terme anglais composer qui veut dire compositeur et her, le pronom elle. C'est un projet lancé il y a un an et demi par deux amis, Clara Leonardi et Marie Imbert. Je les ai rencontrés pour faire un panorama de ces initiatives et j'ai commencé par leur demander ce qu'elles faisaient concrètement avec leur association. C'est Clara qui m'a répondu.
Notre but, c'est vraiment de promouvoir le travail des femmes dans la musique classique, qu'elles soient compositrices, chefs d'orchestre, instrumentistes, chanteuses, pourquoi pas metteuses en scène, et de montrer que ce travail a tout autant d'importance que celui des hommes. Donc pour ça, on a différentes actions. Sur notre site internet, on publie différents types de contenus, des playlists, des interviews, des critiques, des articles d'analyse aussi. Et puis on a un volet très important qui est le volet édition. On va chercher des partitions qui sont dans le domaine public et on va les éditer pour les rendre jouables pour des ensembles amateurs ou professionnels.
Ces partitions, comment est-ce que vous faites concrètement pour aller les rechercher? Marie, c'est toi qui t'en occupe, je crois. Où est-ce qu'on va chercher ces partitions et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait?
Effectivement, c'est moi qui m'en occupe. Des partitions, il y en a dans toutes les bibliothèques, en France et partout ailleurs. Il faut juste les trouver. Nous, on les trouve principalement en ligne sur des plateformes comme Gallica ou même directement sur IMSLP, car certaines personnes les mettent en ligne sur IMSLP. Et donc, on part de manuscrits ou de...
IMSLP, c'est une plateforme de distribution de partitions qui est assez connu. Enfin,
qui est assez connu des musiciens amateurs notamment, parce que c'est comme ça qu'on trouve assez facilement des partitions dans le domaine public. Nous, on récupère des partitions qui sont des partitions d'orchestre, c'est-à-dire les partitions où il y a tous les instruments, les cordes, les vents, des fois des voix, des pianos, il y a de tout. Et on édite cette partition pour que tous les instrumentistes de l'orchestre puissent avoir leur partie séparée, que le violoniste ait devant lui la partie de violon et pas tous les instruments qui ne lui servent à rien. Et ça, c'est tout un travail où il faut rentrer toutes les notes une par une dans un logiciel qui ensuite met ça joliment en page et on peut retravailler tout un tas de petites choses pour que la musique soit le plus lisible possible et que les instrumentistes puissent vraiment jouer avec toutes les cartes en main pour avoir tout ce qu'il faut pour jouer une belle partition, parce que c'est impossible de jouer bien de la musique qui est parfois pas difficile quand c'est mal édité. On essaye notamment de se concentrer sur le répertoire pour orchestre, parce que c'est ce qui manque le plus, c'est ce qui est le moins connu dans le répertoire des compositrices. Récemment, on a édité deux partitions, l'ouverture de The Wreckers, qui est un opéra de Ethel Smyth, une compositrice anglaise qui est morte en 44, donc qui a fait toute la deuxième moitié du 19e et la première moitié du 20e. Et on a également édité une pièce qui est un scherzo, pour orchestre aussi, d'une compositrice norvégienne, Agathe Backer-Grondahl. Et cette pièce, ce scherzo, on est en train de le jouer avec les Déconcertants, qui est un orchestre semi-professionnel qui le jouera le 7 mars prochain à la mairie du 5e arrondissement, dans le cadre d'un concert mettant en avant les femmes de la musique classique, donc compositrices et interprètes. C'est merveilleux comme expérience parce que cette partition qu'on a entendue uniquement en son synthétique depuis plusieurs mois, on l'entend enfin en vrai, avec des vrais instruments. C'est beaucoup d'émotion et on est ravis de faire redécouvrir cette pièce.
En plus de ces partitions, vous proposez aussi des entretiens de femmes. Est-ce que c'est important, ces entretiens, alors que ces femmes, les médias traditionnels, ils en parlent quand même très peu, Clara?
Tout à fait, parce que en fait, les compositrices sont vraiment grandes absentes des médias traditionnels. Elles sont beaucoup moins souvent interviewées que leurs homologues masculins. Donc ça veut dire aussi qu'elles n'ont pas en fait cette plateforme pour faire entendre leurs œuvres et faire découvrir leur trajectoire en tant qu'artiste. Donc nous, on essaye de leur donner de la visibilité, de leur permettre de s'exprimer. Et puis, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, elles sont moins nombreuses qu'elles sont moins représentées. Donc avec ces entretiens, on veut faire connaître des compositrices, des parcours et donner des modèles en fait aux jeunes générations qui pourraient avoir envie de se lancer dans des carrières professionnelles, mais qui aurait l'impression que personne ne l'a fait avant elle.
On parlait de la place des femmes dans les médias. Est-ce que des événements comme les Victoires de la musique classique peuvent y contribuer ? Cette année, il y avait deux compositrices parmi les trois nommées de la catégorie compositeur. C'est Camille Pépin donc qui l'a emporté. Est-ce que c'est une bonne chose, Marie ?
La question de la place des femmes dans toutes ces distinctions et récompenses est délicate à appréhender souvent, parce qu'on croit que ces décisions devraient être entièrement absolues et qu'il n'y a aucun aspect politique. Or, c'est faux. Elles le sont forcément. Il y a une question de représentativité. C'est comme ça qu'on voit où en est le milieu de la musique classique aujourd'hui. Donc la politique, elle est là. On ne peut pas le nier. Ce qu'on oublie, alors que c'est pourtant simple, c'est que ces décisions peuvent être à la fois symboliques et entièrement méritées d'un point de vue musical. C'est le cas pour Camille Pépin, mais il y a même un aspect encore, dont on peut encore plus se réjouir avec Camille Pépin, c'est que c'est une compositrice jeune, ce qui est assez rare dans cette catégorie de compositeurs. Donc on est ravis pour Camille et on lui souhaite vraiment bonne chance pour la suite.
Sur la situation aujourd'hui, les chiffres sont encore assez faibles dans la programmation des concerts, dans la programmation des festivals. Et pourtant, c'est possible en fait de faire un festival avec que des femmes. Je crois que ça existe, Marie.
C'est tout à fait possible. Programmer 50-50, on y arrive. Et même programmer que des femmes, c'est le festival Présence Féminine qui le fait tous les ans depuis 10 ans maintenant. Ça montre que c'est possible. Mais c'est vrai que c'est difficile. Il faut faire beaucoup de recherches. Il faut trouver les partitions. Il faut convaincre les orchestres et les chefs d'orchestre de jouer ces pièces-là. On n'y est pas encore tout à fait.
On parle des concours, on parle des festivals, des initiatives qui viennent d'associations comme vous. Est-ce qu'il faut une réponse politique à cette question du manque de représentation des compositrices dans le paysage culturel aujourd'hui, Clara ?
En effet, les responsables politiques ont vraiment un rôle à jouer, tout simplement déjà dans les programmes de l'éducation nationale. On ne peut pas demander aux jeunes filles d'avoir des ambitions, de vouloir faire de grandes choses, et ensuite à l'école ne leur présenter l'histoire et l'histoire de l'art que sous l'angle des hommes qui l'ont faite. Il y a eu des révolutionnaires femmes, il y a eu des écrivaines, il y a eu, nous on le découvre, beaucoup de musiciennes. C'est extrêmement important qu'elles soient également connues et mises en valeur, parce qu'on ne peut pas du tout se passer de ces modèles pour inspirer les générations futures à faire de grandes choses. Donc c'est vraiment dommage qu'elles ne figurent pas de façon plus importante dans les programmes scolaires. Et puis plus généralement sur le milieu musical classique, en fait les responsables politiques ont un grand rôle dans un secteur précis qui est la nomination des directeurs d'institutions, qui est un métier très peu féminisé à l'heure actuelle. Si on prend par exemple les maisons d'opéra, il y a à peine plus de 10% de femmes, donc c'est vraiment très peu. Et ces décisions-là, elles sont prises systématiquement par des responsables politiques, très souvent issus des municipalités. Les femmes ne sont pas forcément inscrites dans les réseaux de pouvoir traditionnels. Ça veut dire qu'un homme politique qui va faire une nomination va chercher dans ses réseaux, dans les personnes dont il a déjà entendu parler, et ne trouvera que des hommes, même en faisant preuve de bonne volonté. Donc il faut qu'il y ait une vraie volonté politique de sortir des sentiers battus et d'aller chercher des profils féminins qui sont en fait tout aussi compétents, mais qui n'ont pas forcément la même notoriété dans le milieu. Et ça, c'est très important.
J'ajouterais qu'on a aujourd'hui des tas de musiciens et musiciennes qui sortent des conservatoires de 15 ans, 20 ans d'études et qui n'ont jamais joué une compositrice ou jamais entendu parler de compositrice dans leur cours d'histoire ou de solfège, ce qui est très surprenant. Et évidemment, en sortant de ce genre d'institution, c'est très difficile ensuite de réaliser que ces compositrices, elles existent, parce qu'on a l'idée que si je n'en ai jamais entendu parler, c'est qu'elles n'existent pas, puisque j'ai eu une longue éducation sur la question. Donc ça, c'est aussi un travail à faire.
Parmi les sujets qu'il faut traiter, il y a encore les réactions de certaines personnalités du monde de la musique qui sont plutôt contre cette féminisation de la musique.
Alors oui, effectivement, on peut voir qu'il y a encore un grand travail à faire sur les mentalités, notamment sur les mentalités de certains chefs d'orchestre plutôt masculins en général. Par exemple, Marie Sjöndsson, qui est donc un grand chef d'orchestre qui est décédé récemment, l'année dernière s'exprimait sur le sujet en disant que les femmes chefs d'orchestre, ce n'était pas sa tasse de thé. Chose qu'on imagine très très mal dans la bouche, par exemple, d'un grand chef d'entreprise. Ça montre en fait que le milieu de la musique classique est quand même relativement misogyne par rapport à d'autres. Et il y a encore énormément de travail à faire contre ces discriminations et contre les idées reçues.
Vous êtes optimiste pour l'avenir ?
Alors oui, on est optimiste parce que sinon on arrêterait de s'investir dans composeurs. Et puis il y a une évolution qui est clairement positive et voilà, il y a un engouement. Et globalement en fait, il y a un mouvement global vers plus de mixité dans la musique classique. Côté compositrice, il y a un vrai intérêt, même simplement lié en fait à la volonté de redécouvrir un répertoire méconnu, qu'on peut identifier aussi à la volonté de redécouvrir le répertoire baroque par exemple. Les mélomanes sont curieux et ça c'est une bonne chose. Côté interprète, il y a une libération de la parole. On attend encore un vrai MeToo, mais on parle de plus en plus des discriminations. Donc il ne faut pas du tout s'endormir sur nos lauriers et vraiment continuer à être très actif.
Vous proposez des playlists. Est-ce que vous avez une compositrice à nous recommander pour terminer cet entretien ?
Moi, j'aimerais bien parler de Dinah Suess, qui est une compositrice américaine du XXe siècle. Donc, elle est née en 1909 et morte dans les années 80. Et en fait, c'est une compositrice très intéressante. Elle a un petit peu une carrière similaire à celle de Gershwin, par exemple. Donc, elle a beaucoup composé de la musique pour des comédies musicales, pour des films. Elle a été extrêmement reconnue de son vivant parce qu'elle a été, par exemple, jouée à Carnegie Hall. Donc, vraiment une grande reconnaissance. Et elle est complètement passée aux oubliettes ensuite. C'est très dommage parce que c'est très, très beau. Je vous invite, par exemple, à découvrir son concerto pour deux pianos qui est vraiment magnifique.
Eh bien, on va l'écouter. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci à toi.
Pour résumer cet épisode, les femmes qui composent de la musique existent depuis l'Antiquité, mais elles ont souvent été freinées par les conventions sociales de leur époque. Aujourd'hui, on les connaît mal parce que leurs œuvres ont été déconsidérées et qu'elles nécessitent un véritable travail de recherche. Heureusement, c'est ce que font certaines actrices et certains acteurs du milieu de la musique classique qui militent et qui agissent pour faire entendre ces compositrices. C'était Retour vers le classique, merci d'avoir écouté. Pour en savoir plus, rendez-vous sur radioclassique.fr. Vous retrouverez sur la page de cet épisode les morceaux que je vous ai fait écouter en intégralité. Vous pouvez me contacter sur Twitter où je partage des informations sur les coulisses des épisodes. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur les plateformes habituelles de podcast. À bientôt !